Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Nostalgique, lui ? Pas du tout. Il est simplement le dépositaire hexagonal incontesté du swing, du jazz et des tempos latinos que sa voix de crooner magnifie. Lui, eh bien c'est Danny Briand, éternel beau gosse, qui aurait pu être le quatrième pilier du Rat Pack à Las Vegas aux côtés de Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. dans les années 60. Mais c'est un autre modèle, le vrai, qui le rend hommage avec son nouvel album. Danny Briand chante Aznavour, en mariant la profondeur des textes de Charles au sortilège des rythmes salsa. Eh oui, l'un n'empêche pas l'autre. Danny Briand part en tournée pour plus de 40 dates l'année prochaine et s'offre le Palais des Sports à Paris les 16 et 17 octobre 2021.
Europe 1.
Bonjour Danny.
J'ai rougi. Ça ne se voit pas en radio. Mais...
Et ce n'est que le début. Danny Briand, quand on est donc en France le dépositaire incontesté du swing et du groove jazzy, on n'est pas à la mode, on est hors mode. Alors, il vous convient ce statut de crooner qui chante en dehors des rails privilégiés par le showbiz, donc loin du rap, du hip-hop, du R&B et de la pop ?
Bah, c'est ce que je voulais faire dès le départ. Je ne me suis pas posé la question de savoir si j'allais être accepté ou pas. C'est l'emploi que j'ai choisi. Comme quand un comédien, commence sa carrière, il a un emploi de jeune premier, de méchant. Moi, je voulais l'emploi de crooner. Donc, je l'ai eu, je suis content.
Et il le garde, il y est fidèle. Mais qu'est-ce qui vous a toujours fasciné dans les musiques des années 50 pré-rock'n'roll, c'est-à-dire celle de Glenn Miller, de Dean Martin, Django Reinhardt, Sinatra, bien sûr, mais aussi Tito Puente ou Ray Barreto?
Je ne sais pas du tout. C'est très mystérieux parce que je ne venais pas forcément d'une famille qui aimait cette musique-là, mais j'ai découvert un disque de swing de Glenn Miller, In the Mood, à 10 ans. Et je m'en suis jamais remis. J'ai toujours été attiré par ces musiques un peu swing, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sur le temps. Et les Américains en ont fait beaucoup. Mais après, je me suis aperçu que les Français aussi en ont fait. Il y a une période très française, très swing. Et moi, je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur moi. J'ai peut-être un élément de réponse.
Alors, lequel ?
Quand je suis allé à la Nouvelle-Orléans enregistrer un disque donc avec l'orchestre d'Harry Connick Jr., qui est un des grands crooners d'aujourd'hui, je suis tombé sur un batteur qui avait 25 ans et je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, comment ça se fait que toi, qui n'es pas de cette génération, tu joues du jazz comme à l'époque ? Et je lui ai dit, pourquoi tu as choisi cette musique ? Et il m'a répondu, c'est pas moi qui ai choisi cette musique, c'est cette musique qui m'a choisi.
Alors, elle vous va très bien la formule. Bon, parlons répertoire et pas seulement musique, Danny Briand. Vous avez perdu votre père alors que vous étiez jeune, un père est celui qui montre le chemin. Charles Aznavour, que votre mère écoutait en boucle, il y a quelque chose de Dipien peut-être à avoir repris comme ça le répertoire de Charles. Mais Charles Aznavour vous a en quelque sorte montré le chemin.
Oui, je pense que ça a été un père de substitution, un père spirituel, parce que Charles Aznavour avait les textes. Contrairement aux crooners où les textes n'étaient pas très importants aux États-Unis, c'est surtout des histoires d'amour. Mais Charles Aznavour parlait de tous les sujets du quotidien, tous les états d'âme, toutes les tristesses de l'amour, de l'abandon. Il décrivait souvent des personnes un peu hors normes, un peu marginaux. Il parlait des homosexuels, il parlait des artistes ratés. Je ne sais pas, et dans ses textes, en fait, j'ai appris la vie.
Donc il existe une chanson d'Aznavour pour chaque moment de la vie.
Il y en a pour chaque moment de la vie. Il a écrit 1000 ou 1500 chansons et il y a une chanson pour tous les événements.
Votre titre préféré à vous, c'est lequel ?
Oh, j'en ai plusieurs. En ce moment, c'est à ma fille.
C'est vrai.
Parce que je suis tiraillé par ma fille que j'adore et que le fait que si jamais elle se marie, je pense que je vais détester son mari. Et Charles Aznavour parle de ce sentiment dans une chanson qui s'appelle « À ma fille », où il est tiraillé justement entre son activité de père et le fait qu'il va la donner à un étranger.
Alors Danny Briand, rappelons qu'en 1998, Aznavour a été élu par le Times et par CNN, artiste de variété du siècle, devant Elvis Presley et devant Bob Dylan. Il a, comme vous l'avez dit, signé à peu près 1500 chansons, il a tourné dans 80 films, et puis en 2017, à l'âge de 93 ans donc, il a inauguré son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood, ce qui est absolument hallucinant, complètement prodigieux. Donc c'est la carrière exemplaire pour quelqu'un qui a démarré quand même comme secrétaire et régisseur d'Edith Piaf. Enfin, c'est
oui,
fou.
C'est une histoire à l'américaine, Charles Aznavour. C'est un fils d'émigré... arménien, qui est venu là après le génocide arménien, qui voulait aller aux États-Unis puis ses parents n'ont pas pu avoir le visa, donc ils sont restés en France. Et il est devenu le chanteur français le plus connu au monde, comme vous dites. Et je pense qu'il a 70 ans de carrière, et pour quelqu'un qui fait ce métier de la chanson, je pense que c'est le modèle absolu.
Alors, votre admiration pour Aznavour, effectivement, elle est telle que vous allez jusqu'à dire que, en fait, pour vous, il est le plus grand que Brassens, plus grand que Léo Ferré, et même plus grand que Jacques Brel. Ah oui. Vos arguments sont lesquels?
Moi, je trouve, bah, chacun sa sensibilité. Mais moi, je trouve que les paroles d'Aznavour sont beaucoup plus universelles que les paroles. Bon, attention, je pense qu'au panthéon des chanteurs français, vous en avez cité des magnifiques, des Jacques Brel, des Ferré, des Brassens. D'ailleurs, on ne parle souvent que d'eux. Et Charles Aznavour souffrait qu'on ne le mettait pas. Vous savez, quand il y a eu l'espèce d'interview là où de France Culture, où il y a les chanteurs français les plus connus.
Avec les 4B.
Il y a Brel. Il y a Brassens qui a fait, et lui, il n'est pas invité. Donc, il a toujours eu un peu les boules de ne pas être, si vous voulez, traité au même niveau, littérairement, que ces chanteurs français. Alors, moi, je pense, comme il est un peu moins littéraire, il est plus universel. Donc, moi, je me reconnais plus dans ces textes, parce que les mots sont peut-être plus simples, mais c'est toujours très profond.
Puisque vous évoquez les mots d'Aznavour, il a une diction particulière, Aznavour. Il mord dans les chansons, il mord les mots, n'est-ce pas? Et moi, ça donne d'ailleurs une rythmique assez singulière, toujours un petit peu en avance du temps.
Ah oui, c'était terrible. C'était un enfer pour les musiciens, parce qu'il est toujours un peu en avant. Mais c'est ça le swing. C'est justement être pas dans le temps. Vous qui êtes musicienne, vous le savez. Soit on chante dans le temps comme tous les Français, soit on se balade sur la mesure et on retombe toujours sur ses pattes quand on a le groove. Bon, et bien Aznavour, c'est ça. C'est une façon très particulière de chanter. Mais je crois qu'il a pris ça aux États-Unis parce qu'il a passé 8 ans avec Piaf aux États-Unis. Ouais. Je pense qu'il avait vu tous les crooners de l'époque. En plus, c'était l'âge d'or du jazz. Il a été à Broadway et il est revenu avec cette façon de chanter un peu à l'américaine.
Alors Danny Briand, cet album de reprise, il vibre de couleurs et de tempo latino. On va danser sur du Aznavour puisque vous osez la bohème en salsa. Il n'y a aucune trahison.
C'était ça le but, c'est parce que si je faisais la même chose, d'abord la bohème, tout le monde la connaît, c'est un tel chef-d'œuvre que j'aurais suscité la comparaison. Donc il fallait vraiment que j'amène Aznavour dans mon registre à moi plus personnel. Et j'ai essayé plein de rythmes et je trouvais que la salsa, ça marchait très bien avec sa chanson. Parce que la salsa, c'est une musique latine, donc qui a été créée par des Cubains, par des Portoricains. Et en fait, ce sont des gens qui ont beaucoup souffert. C'est des fils d'esclaves, c'est des gens qui ont connu la révolution. Et donc il y a une tristesse dans cette musique, mais en même temps une joie. Il y a une énergie. Et je pense que dans la chanson d'Aznavour, il y a ça. Il y a cette mélancolie. Mmh. Et en même temps, il y a une joie de vivre. Mmh.
Vous avez enregistré à l'ancienne, avec un grand orchestre, et avec un micro à lampe qui donne une présence magique à la voix. Mais c'est très rare aujourd'hui d'utiliser cette technique. C'est quoi, racontez-nous, un micro à lampe?
À lampe, oui. Bon, en fait, voilà, j'ai toujours trouvé que Bon, j'écoute des disques d'aujourd'hui et j'écoute des disques des années 50-60. Bon, effectivement, la production a changé. Mais le son de la voix, je trouve que c'est moins bien aujourd'hui, moi.
C'est plus froid.
Je sais pas, il y a quelque chose. Alors je me suis posé la question, pourquoi?
Vous voulez dire que la technique est irréprochable, il n'y a pas de déperdition de son, mais le petit supplément d'âme qu'il y avait à l'époque a disparu.
Bon, il y a le talent, bien sûr, du chanteur. Mais au moins, cette espèce de micro à lampe, qui c'est un peu archaïque, c'est comme ça qu'a commencé la radio, c'est à lampe, c'est des vraies ampoules hein, qui chauffent. Je ne sais pas, ça donne une chaleur à la voix. Alors j'ai été dans des studios qui ont conservé ces micros à lampe et j'utilise pratiquement pas de Pro Tools. Les gens ne savent pas ce que c'est, mais c'est un truc très compliqué où la voix sort de circuits électroniques, mais il n'y a pas cette chaleur du micro à lampe. Donc c'est mon son, j'utilise ça depuis toujours, et je trouve que ça donne aussi une personnalité à la voix.
Eh bien, ne changez rien. On fait une pause très courte et on continue de cheminer cet après-midi en compagnie de Danny Briand.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Danny Briand, ce qui nous réunit aujourd'hui est cet album Solaire en hommage à Aznavour, dont vous reprenez 11 titres cultes, boostés donc par des rythmes et des sons latinos. Un album qui vous amènera au Palais des Sports à Paris les 16 et 17 octobre 2021. Alors, pour de nombreuses raisons, vous êtes légitime dans cette aventure. D'abord par goût, vous nous avez expliqué tout ça à l'instant, parce que vous êtes aussi un crooner à la voix profonde. Et puis parce qu'Aznavour, vous avez choisi pour l'accompagner en Arménie, la terre de ses origines. Mais j'aimerais savoir comment et où vous vous êtes rencontrés pour la première fois, alors que Aznavour avait un œil sur vous déjà depuis vos débuts, n'est-ce pas? Sans vous avoir envoyé de signe, mais...
C'est ce qu'il m'a dit.
Il
c'est ce qu'il a dit
aussi
à des copains à moi. C'est ce qu'il a dit à des copains à moi. Franck Dubos, qui avait tourné avec lui il y a 30 ans, il me dit « J'aime bien ce gars-là, mais il faudrait qu'il chante autre chose que des chansons d'amour. Il faudrait qu'il aborde des sujets plus sérieux. » Donc ça, c'était mes débuts. Je ne le savais pas. Bon, j'ai dit partout que c'était un maître, évidemment. Mais je crois qu'il ne s'est pas manifesté tout de suite parce que, vous savez, je venais d'une époque, les années 80, où les chanteurs faisaient un tube et puis on ne les voyait plus. Donc c'était un chanteur qui dure à l'époque, dans les années 90, c'était rare. Donc il a attendu un peu. Et en 97, je l'ai rencontré à Montreux. Festival de jazz, où je faisais un hommage à Charles Trenet, puisqu'il faut savoir que le maître d'Aznavour, c'est Trenet.
Ouais.
Il était là au premier rang avec Trenet. Et donc, il m'a vu, et là, il est venu dans ma loge, m'a félicité, il aimait mon...
Donc, vous avez chanté, c'est formidable,
ouais.
Face à, au premier rang, Trenet et
Charles d'Aznavour. Les deux Charles de la chanson, les monstres. Vous savez, il s'appelait le roi et le prince, hein, il s'appelait comme ça. Les deux Charles de la chanson française.
Et on gère comment, quand on a Charles Trenet et Charles d'Aznavour en face de soi au premier rang?
Moi, je suis un môme. Donc j'espère un résultat. Je fais les trucs parce que je trouve que la vie est magique. Il y a des opportunités, il y a des situations. Donc j'étais ravi. Donc j'essaye d'être à la hauteur. J'étais accompagné par George Duke, qui est le Quincy Jones de l'époque.
Oui.
Et j'ai chanté le piano de la plage et fidèle. Voilà, le vieux piano de la plage. Enfin voilà. Et puis Aznavour est venu me voir et là on a sympathisé. Ensuite, je suis allé à son bureau, c'était les éditions Raoul Breton.
Qu'il avait racheté,
qui est le temple de la chanson française. Mmh. Et puis après, je ne sais pas, on a sympathisé. Et Aznavour m'emmenait toujours dans ses... Dès qu'il faisait un truc, par exemple, quand il a été en Arménie avec Jacques Chirac. À la suite de ça, d'ailleurs, le génocide arménien a été reconnu par la France en 2006. C'était lors de ce voyage en Arménie, quand il y avait ses 80 ans à l'Opéra de Paris, j'y étais. Enfin bon, pour moi, il était top.
Alors, il vous conseillait, il vous a offert un texte qu'un jour, sans doute, vous mettrez en musique. Et il paraît qu'il vous disait, Charles, bravo, Dany, vous êtes comme moi, longtemps je n'ai pas eu la carte.
Oui, je lui disais, vous savez, moi, bon, je fais beaucoup de variétés, mais je passe un peu à la radio, mais je ne sais pas, la presse ne vient pas. Il m'a dit, c'est pas grave, c'est bon. C'est...
Parce que quand même, la carte Aznavour...
Ah bah, il l'a eu après.
Effectivement.
Il l'a eu après.
Mais longtemps, il ne l'a pas eu, mais alors le tard, il l'a eu la plus fin, qu'aucun autre, n'est-ce pas ?
Il a une telle longévité qu'il a fini par l'avoir. Mais si, par exemple, il serait décédé à 40 ou 50 ans, à ces époques-là, il ne l'avait pas encore, même s'il faisait des succès mondiaux. Mais le problème, c'est que comme il avait tellement de succès, en France, comme on a l'idée de l'artiste maudit qui vend pas tant que ça et tout, que le mec qui cartonne, tout d'un coup, ça passe pour un capitaliste. D'ailleurs, on pensait toujours à Aznavour était un homme d'affaires. Mais c'est un poète. Et donc, il n'avait pas la corde. C'était troublé, si vous voulez, c'était pollué par le fait qu'il avait un succès énorme.
Alors, Johnny Hallyday n'est pas connu aux États-Unis. Aznavour, lui, a été élu donc par l'Amérique et précisément par le Times et CNN, artiste de variété du siècle.
C'est fou.
C'est quand même étonnant. En revanche, Aznavour, en France, n'a pas eu d'obsèques nationales. Vous trouvez ça injuste ?
Il a eu, si, avec Macron, il a eu un peu un truc aux Invalides, mais ce n'est pas l'ampleur de ce qu'a eu Johnny Hallyday. Ça, c'est vrai. Je ne suis pas jaloux, hein, je ne vais pas faire de la concurrence morbide, mais je trouvais qu'Aznavour, qui était quand même le plus grand chanteur français de l'époque et de ces décennies, je trouve qu'on ne l'a pas souhaité à la hauteur de sa renommée.
Alors, Dany Briand, parlons de votre histoire, de votre chemin à vous. Cette histoire, elle commence à Tunis, où vous naissez en décembre 65, et que vous allez devoir, comme Michel Boujna, d'ailleurs, quitter à la suite de représailles contre les Juifs après la guerre des Six Jours. Boujna avait 11 ans, vous 2 ans, donc la Tunisie est dans vos gènes, mais pas dans votre mémoire.
Bah, mes parents, si, parce que mes parents pensaient que c'était un petit paradis, la Tunisie.
Donc ils vous en ont beaucoup parlé.
Ma mère a toujours été très nostalgique. Mon père s'en est jamais remis vraiment parce qu'il avait perdu sa situation assez enviable, assez bourgeoise. Et là, il s'est retrouvé un peu manutentionnaire dans un magasin. Donc il n'a jamais bien digéré. Mais il faut savoir que la Tunisie des années 60, c'était une espèce d'oasis de paix. Il y avait toutes les communautés qui se fréquentaient, les catholiques italiens, les maltais, les juifs, les arabes. Il n'y avait pas de problème. Alors c'est pour ça ils n'ont pas compris comme du jour au lendemain son magasin a été saccagé, j'ai une tante qui a été violentée, enfin bon, et donc ils ont dû partir du jour au lendemain en laissant tout. Mais malgré tout, ils ont gardé quand même une nostalgie du soleil et d'un pays méditerranéen.
Mais votre père ne s'en est jamais remis.
Non, jamais. Non,
de cette fuite d'ailleurs,
non,
dans la terreur, arrivant à Sainte-Geneviève-des-Bois, puis dans le 19e arrondissement, absolument sans un sou.
Voilà, pas d'argent, mais si vous voulez, je me suis aperçu que finalement les valeurs sont plus importantes que la situation financière, ou la culture. On peut vraiment s'en sortir, même si on n'a pas d'argent, si on commence à se cultiver. Et l'école, pour moi, ça a été magnifique. Je voulais en parler parce qu'en ce moment, on en parle beaucoup.
Vous n'aviez rien à regretter, puisque effectivement tout à découvrir. Étiez enfant.
Moi, je ne regrette rien. Je trouve ça...
Vous êtes tombé amoureux de la France, n'est-ce pas ?
Complètement. Complètement. Et de sa culture, de son théâtre. J'ai eu des professeurs magnifiques qui m'ont initié à la culture française. J'ai le souvenir d'une prof de littérature qui m'a vraiment fait lire des textes, une prof de philosophie qui m'a appris à réfléchir par moi-même. Non, franchement, moi, j'ai été sauvé, moi. En revanche, j'ai adoré venir là.
Alors, Dany Briand, vous avez commencé médecine, j'ai envie de dire sans conviction, enfin j'imagine.
Non, c'était pour rassurer.
Bien sûr, pour rassurer les parents. Vous habitiez une petite chambre de bonne à Saint-Germain-des-Prés, rue du Four. Vous jouiez de la guitare, votre voisin de chambre jouait du saxo. Et il paraît qu'un jour de l'été 85, eh bien, ce voisin vous dit « Tu chantes bien, hein, si on allait faire les terrasses ?» Alors vous êtes allé jouer devant le floor et pour la première fois de votre vie, vous avez chanté devant des touristes attablés.
Exactement. Mais il faut dire que c'est une autre ambiance qu'aujourd'hui. Hein. Il y avait des tables, les tables étaient bondées. Et donc, ça a été mon école. C'est vrai que j'ai suivi ce saxophoniste qui était... C'était un type qui me fascinait. C'était vraiment un personnage de roman. Il écrivait des scénarios. Il y avait toujours des sublimes filles chez lui. Je l'ai croisé un jour et il m'a dit, je t'entends jouer de la guitare. Moi, je jouais comme ça pour moi. Hein. Vraiment, ouais. J'avais pas du tout l'idée que j'allais devenir chanteur. Moi, je voulais devenir médecin, voire dentiste si j'avais pas eu la première année. Et puis là, c'est vrai qu'il m'a emmené. Il me dit, t'inquiète pas, moi, je vais jouer du sax. J'irai demander l'argent et toi, tu joueras un peu, tu m'accompagneras. Et puis là, c'est vrai que j'ai eu une révélation. Enfin bon, j'ai eu comme... Vous savez, dans la vie, des fois, il y a des moments, il y a des chocs. Et là, j'ai vu que les gens m'écoutaient.
Alors, une révélation, mais septembre arrive, la fac reprend, et en novembre, bah, sous la pluie, il y a plus grand monde aux terrasses, n'est-ce pas ?
Terminé.
Alors, votre ami vous propose de chanter dans le métro, vous êtes réticent, mais oui. Une après-midi, un voyageur vous écoute avec une concentration particulière, et vous donne sa carte, et cette rencontre-là, elle va tout bouleverser.
Exactement, c'était le directeur des Trois Maillets, qui s'appelle Jacques Pony, qui vient de décéder du Covid d'ailleurs, paix à son âme, et qui m'a vu dans le métro, et il m'a dit, voilà, j'ai un club à Paris, au quartier latin, et viens passer une audition, et j'y suis allé, et j'ai passé une audition, et il nous donnait 200 francs par jour, de l'époque, je ne sais pas combien ça fait en euros, enfin, bon, pour nous c'était la fortune, et le repas gratuit.
Le repas du soir gratuit, non,
le repas
c'est
gratuit.
Ça
et c'était bon, il y avait des pommes sautées. Enfin,
ouais. Et en fait, vous étiez chargé de chanter pendant les pauses entre les orchestres de jazz.
C'est
donc
ça.
L'essentiel de votre métier, vous l'avez appris là, sur la scène du cabaret des Trois Maillets.
Eh ben, je vais vous dire, il y avait Nina Simone qui passait aux Trois Maillets.
Non.
Les gens, ben oui, parce qu'elle était un peu dans le creux de la vague. Elle habitait à Nice, je crois, ou à Paris. Et Jacques Bonny l'avait engagée et elle faisait les beaux soirs des Trois Maillets. Mais quand elle allait prendre sa pause, eh bien, il fallait quelque chose pour animer. Donc, il nous avait pris, nous, mon copain saxophoniste et moi. Et voilà, on faisait les pauses. Et puis, au bout d'un an, ben, je suis passé en vedette.
Mais donc, la première année, quand vous ne chantiez pas, pendant les pauses, vous étiez complètement spectateur.
Ah oui, j'apprenais.
Et vous appreniez.
J'apprenais parce que ça a été mon école, ce cabaret. Je pense qu'elle n'existe plus aujourd'hui, les cabarets. Ils doivent rester un ou deux peut-être à Montmartre, mais ça doit être pour des comiques, mais pour des chanteurs, ça existe. Là, j'avais un orchestre, c'était fabuleux. Et puis, il y avait des groupes du monde entier qui passaient. Donc moi, j'ai écouté tous les musiciens cubains. Ouais. Ça, je ne connaissais même pas à l'époque la musique cubaine, je la connaissais.
C'est là que vous avez découvert la salsa ?
Non, j'avais les disques. Ouais. Mais là, tout d'un coup, je voyais des gens qui la jouaient en vrai. J'ai vu un vrai Cubain qui s'appelait Humbert Eguez, qui était là en train de jouer du vibraphone, des percussions, et j'ai compris comment ça marchait. Il m'a expliqué comment marchait la salsa. Donc ça a été une école fabuleuse, parce qu'après moi, quand j'ai fait mes 10 de salsa, je savais comment on les faisait.
Alors, juste avant de faire une courte pause, Dany Briand, votre copain saxophoniste, il était de la partie aux Trois Maillets, ou bien on lui avait rien proposé ?
Non, il m'accompagnait au saxophone.
Ah oui !
Et après, même quand pendant 10 ans, quand j'ai commencé à faire mes concerts et tout, il était avec moi pendant 10 ans. Il m'a accompagné. Après, quand les partitions sont devenues trop compliquées, il fallait lire et tout ça, il ne pouvait plus suivre. Donc j'ai dû prendre une vraie section.
Mais l'histoire est tout de même jolie. Allez, on retrouve tout de suite Dany Briand.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Son nouvel album a pour titre « Dany Briand chante Aznavour » les 16 et 17 octobre 2021. Eh bien, Dany Briand s'offrira le Palais des Sports. Mais cet après-midi, il est mon invité. Cher Dany, alors on vient de vous quitter sur la scène du cabaret des Trois Maillets. Est-il vrai que pendant 2 ans, vous avez réussi à cacher à votre mère que vous aviez arrêté médecine ?
Oui, parce que si on a écouté le début de l'interview, on a vu que mes parents n'étaient pas très fortunés. Ils venaient d'arriver comme ça, il fallait les rassurer. Alors de lui dire que voilà, j'avais arrêté médecine sur laquelle elle fondait beaucoup d'espoir et que j'ai devenu saltimbanque, c'est-à-dire sans sécurité de l'emploi, et qu'est-ce que j'allais devenir, je ne pouvais pas lui faire subir ça, cette déception.
Mais
cette
alors, il paraît que c'est votre oncle qui un jour vous a surpris en train de chanter à la guitare devant le Bonaparte, qui... Soudain s'est dit, mon Dieu, mais que fait mon neveu ici ? Il vous a demandé des explications ou il a filé en douce, révélé tout à votre maman ?
Non, il a tout balancé, j'ai trouvé ça dégueu. Ah. Et il a dit à ma mère, qui croyait que donc j'étais étudiant, il est tombé bien bas.
Bon alors, quand vous êtes rentré à la maison, j'imagine
ma mère
que ça
m'a dit,
a été
très chaud. Je comprends mieux pourquoi tes poches, parce que je lui donnais mon linge à l'époque, j'habitais.
Oui.
Je comprends pourquoi tes poches sont déformées par des tas de pièces de 20 centimes, 50 centimes. Et vous savez, parce que moi j'avais de la monnaie, des terrasses. Donc je mettais ça dans ma poche, donc ça faisait des poches énormes. Et elle me dit, je comprends mieux les poches déformées. Voilà.
Bon, n'empêche qu'il faut drôlement bien s'organiser pour vivre dans un tel mensonge pendant 2 années consécutives.
Ouais, c'est vrai. Mais à la fin, j'étais obligé de le dire. Bon, voilà, j'étais obligé. Mais c'est vrai que j'ai menti pendant longtemps. J'ai même dit que j'avais mes examens, ça c'est honteux. Ouais. J'ai honte.
À cette époque-là, vous chantiez déjà sur la scène des Trois Maillets ou pas encore ?
Oui, ça y est. Parce que
en plus !
Moi, j'ai chanté, j'ai fait 3 mois de terrasse et puis après, j'étais sur scène. Hein. À 19 ans, ça y est, j'apprenais le métier de chanteur. Hein.
Alors, Dany Briand, par parallèlement à cette vie de chanteur de cabaret et de terrasse de café, vous fréquentiez le cours Florent, dont l'un de vos professeurs, Francis Huster, réalisait un film qui a tué Charlie Spencer. Huster avait accepté que vous composiez une chanson Suzette pour ce film, mais bon, au montage, hélas, il a coupé la scène. Donc vous êtes allé chanter Suzette aux Trois Maillets pendant que vous démarchiez les maisons de disques qui, toutes paraît-il, vous ont répondu la même chose pendant 4 ans. C'est-à-dire que Suzette était un tube dans le cabaret où vous apparaissiez. C'est devenu ensuite sur disque un tube gigantesque. Mais ça a été refusé pendant 4 ans par les maisons de disques.
Oui, bah on sait très bien que les maisons de disques ne sont pas d'avant-garde. Hein. C'est le public. Le public est beaucoup plus d'avant-garde que les maisons de disques, on le sait. Bon, il faut dire que c'était la grande époque des années 80, fin des années 80 et 90. Ce n'était pas du tout la variété de l'époque. On n'était pas encore dans le retour au Django, au Manouche, au Swing. Et c'est venu en même temps. Quand c'est sorti en 91, il y a eu toute une vague Manouche, toute une vague Swing qui est arrivée. Il y a Matt Bianco, il y avait Harry Connick Jr. En fait, voilà, on était toute une génération qui en avait marre de la variété des années 80 électronique. On voulait revenir aux vraies batteries, aux contrebasses. Et oui, pendant 4 ans, c'est vrai que c'était dur. Mais comme je voyais que ça avait du succès sur scène, moi, je tenais bon. J'étais déjà à l'école de Charles d'être entêté et que même de faire des bides, c'est pas grave quand on croit en soi et puis au public, parce que c'est le public qui me disait que c'était bien.
Alors, j'ai dit au début de cette conversation que vous étiez le dépositaire en France incontesté du jazz groovy.
Je suis sûr qu'il y en a d'autres quand même.
Mais il faut du cran pour être décalé. En France, vous l'êtes. À l'étranger, vous ne le seriez pas décalé. Vous auriez aimé faire carrière aux États-Unis?
Moi, je ne suis pas dans ce genre de réflexion. Moi, je pense qu'on est toujours à l'endroit où on doit être. Vous voyez ? Je ne suis jamais là à me dire « Oh, si j'étais là-bas oh, !» Je pense qu'on est où on doit être. Moi, si vous voulez, je suis en France, je dois être un chanteur français qui fait du swing, même si c'est dur, contre vents et marées, c'est ma fonction, c'est ma place, je dois le faire. Et puis si un jour, on m'appelle des fois, dans d'autres pays, j'y vais, je vais chanter, mais je suis le chanteur Frenchie. Donc non, je n'ai jamais eu ce ressentiment de « Ah, à l'étranger, c'est beaucoup mieux. »
C'est un chanteur heureux que je reçois aujourd'hui. Heureux d'ailleurs, comme l'est sa musique. On retrouve tout de suite Dany Briand.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Dany Briand rend hommage à Aznavour dans son nouvel album « Sans perdre son ADN ». Une tournée de plus de 40 dates est prévue l'année prochaine avec point d'orgue ultime les 16 et 17 octobre, le Palais des Sports. À Paris. Dany Briand, vos albums, au cours des 25 dernières années, vous êtes allé les enregistrer sous le soleil de la Havane, de la Nouvelle-Orléans, mais aussi à Rome ou à Londres, comme des cartes postales musicales. Et vous avez foulé des scènes mythiques, hein, le Stade de France en 99 et Bercy en 2008. En 99, c'est la plus célèbre des divas planétaires que vous avez choisi pour ouvrir son show au Stade de France avec 6 de vos tubes, c'est Céline Dion. Alors, je voudrais que vous nous racontiez la rencontre, et puis les répétitions hors normes.
Bah écoutez, moi, vous savez, j'ai toujours, comme je vous dis, j'étais un enfant, toujours éberlu de ce qui m'arrivait. Et quand j'ai commencé aux Trois Maillets, je chantais devant 25 personnes. Et je me suis aperçu, en fait, qu'une chanson qui est bonne devant 25 personnes, elle est bonne devant 80 000, ça ne change rien, en fait. C'est juste les moyens qui sont plus importants. Vraiment, les chanteurs, c'est ça. Les chanteurs qui font des stades, on peut des fois être noyé par le gigantisme. Mais si le cœur est là, j'ai l'impression qu'il y a une onde qui est universelle, qui touche tout le monde. Ça ne m'a pas fait peur.
Ça ne vous a pas fait peur?
Non.
Bon, à l'époque, aucune décision n'était prise par quelqu'un d'autre que René, le mari de Céline Dion,
n'est-ce pas ? Oui, René m'avait choisi parce que justement, bon, il aimait bien mon côté un peu swing, un peu américain, un peu différent. Il n'allait pas prendre un chanteur de variété classique. Je sais que Céline Dion aime bien Barbara Streisand, elle aime tout ce qu'on aime. Elle aime Elvis Presley, elle a même fait un duo avec lui. Donc, enfin, un duo virtuel, pas un duo.
Ouais.
Hein, voilà, j'étais dans l'ADN un peu de Céline Dion, de Las Vegas et tout ça, des crooners. Donc ça s'est très très bien passé, vraiment.
Alors, le Stade de France, c'est effectivement pas loin de 90 000 personnes. Quand on arrive sur scène, bon, le ciel se déchire sous les ovations. On a pour habitude de parler de tonnerre d'applaudissements, mais on est bien au-delà de l'orage carrément quand il s'agit d'entrer en scène au Stade de France. Alors vous nous avez dit que vous n'aviez pas peur, mais qu'a-t-on en tête quand on apparaît sur scène à ce moment-là ?
Bon, on remercie, c'est la gratitude, il faut remercier. Moi, je remercie toujours mes anges gardiens qui m'ont fait faire les bonnes rencontres au bon moment. Et puis, je sais qu'après ce spectacle, je sais que la capacité de mes sables a doublé, parce que les gens m'avaient vu pas mal avec Céline, parce qu'on a fait plusieurs stades, on n'a pas fait que le Stade de France, on a fait d'autres stades. Donc j'ai vu beaucoup de gens d'un coup.
Ah, vous l'avez suivi, Céline Dion.
Oui, je l'ai suivi, ouais. Et elle était tellement gentille avec moi, j'ai compris ce que c'était que la grandeur et la simplicité. Elle est vraiment venue dans ma loge, elle m'a dit, tu sais, Dany, amuse-toi, dépasse-toi, amuse-toi, pense à rien. Et puis voilà, j'ai suivi son conseil toute ma carrière.
Alors Dany Briand, en 2008, vous avez fait Bercy. Alors cette fois-ci, seul en haut de l'affiche, et avec un concept révolutionnaire qui permettait au public de danser pendant le concert, ce qui s'était jamais fait. Expliquez-nous.
Oui. Bah, j'ai fait le grand bal de l'amour. Parce que moi, je trouvais, bon, en vieux nostalgique que j'étais, je trouvais que les gens... C'était avant de danser avec les stars, hein, ça, 2008.
Oui. Donc, je trouvais que les gens... Donc, c'est dire si c'était novateur.
Bah, j'étais avec Fauvoto et Maxime qui étaient déjà des
Vous les aviez déjà
ouais,
repérés.
Je les avais déjà, bien sûr, je les avais repérés.
Vous les aviez castés.
Et je les avais repérés, puis je les avais avec moi sur scène depuis 5 ans. Parce que moi, je trouvais que pour se rencontrer, la danse, c'est le meilleur endroit. Le slow, mais même les autres danses, le mambo, le tango, voilà, pour c'est les corps à corps, les cœurs à cœur. Enfin, moi, je trouve ça génial. Et donc, j'avais fait des pistes de danse et j'avais fait le grand bal de l'amour parce que comme on était dans la grande époque, on commençait à se rencontrer par Internet, par Mythique, par tout ça, je trouvais ça triste. Et je dis, le meilleur endroit pour se rencontrer, finalement, ça reste le bal. Moi, j'ai grandi comme ça, on se rencontrait au bal. Donc, j'ai fait un grand bal à Bercy et je peux vous assurer que j'ai eu pas mal de mariages.
Donc, vous avez constitué une espèce de scène géante parquetée, c'est ça ?
Exactement, un grand parquet immense. Et c'était une boîte de nuit ou une discothèque ou un bal, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Un concept où j'ai grainé un peu tous les styles de danse de couple. La musique latine, mais aussi le rock, le swing, toutes ces danses, là, le tango. Eh bien, d'abord, j'ai eu toutes les écoles de danse qui commençaient à fleurir, à commencer à se remettre. Et puis après, un an après, il y avait Danse avec les stars. Donc ça, je me suis dit, voilà, finalement, j'étais encore dans l'air du temps. Parce qu'on dit toujours que je suis vintage. Mais peut-être que je suis un petit peu en avance.
Ouais, c'est ça, en fait, la vérité. Bon, Bercy transformé en scène géante a été un triomphe. Votre carrière musicale était au top. Et voilà que soudain, vous voulez changer d'aiguillage. L'ex-élève du cours Florent que vous étiez, je ne sais pas, c'est peut-être souvenu de ses frustrations. Vous rêviez de théâtre. Donc, vous avez créé une pièce à Paris. Vous l'avez emmenée en tournée. Bon, le problème n'est pas que ça n'a pas marché. Le problème est que ça vous a déconnecté de la musique au point que... Vous qui écrivez vos chansons, vous avez avoué que vous perdiez l'inspiration. Oui, le théâtre vous a fait perdre l'inspiration.
Bah, c'était un rôle qui était très très physique. C'était un peu un rôle, vous savez, je ne sais pas, bon, toute proportion gardée, à la Louis de Funès. Je hurlais du début jusqu'à la fin de la scène. J'étais épuisé. Et surtout, en plus, quand on faisait des matinées le samedi, on faisait deux pièces. J'avais plus d'énergie. Donc, à la fin, je me suis ramassé. Donc, voilà. Et j'ai pensé qu'à un moment, il fallait choisir.
Vous avez tourné 2 ans avec cette pièce,
voilà,
n'est-ce pas ?
Exactement. Et quand je suis arrivé pour écrire, j'étais sec. Donc, j'ai compris à un moment que même les chanteurs ou les acteurs qui font ce métier-là, ils arrêtent, en fait, la chanson. Parce que c'est vrai, on ne peut pas tout donner en même temps. Voilà.
Bon. Et puis. Il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, du Bataclan, qui vous ont rappelé, hélas, les représailles à Tunis après la guerre des Six Jours, avec la synagogue où chantait votre oncle, qui avait été incendié, le commerce de votre père saccagé, votre tante violentée. Donc, est-ce qu'en fait, vous avez sombré dans ce qu'on pourrait presque appeler une dépression à ce moment-là ?
Oui, il y a dû avoir un retour au début, je ne sais pas, quelque chose. Parce que mes parents, eux, ont sombré, moi pas, parce que j'étais enfant. Mais ça a dû me rappeler des choses. Et après, c'est vrai que j'ai plus envie de faire de musique, donc je me suis un peu calfeutré. Mais ce n'était pas une dépression sévère, c'était une fatigue, je pense, une petite fatigue. Donc c'est pour ça qu'on ne m'a pas vu 3-4 ans, je n'étais pas très présent.
Qu'avez-vous fait pendant ces 3-4 ans ?
Rien. J'ai rien fait. J'ai rien fait,
vous
mais
êtes
j'ai
devenu
peut-être...
spectateur
non,
du monde.
Non, j'ai peut-être fait des enfants. Enfin, pas moi. Pas moi, mais j'avais déjà une fille qui me rendait très heureux. Je me suis dit, j'aimerais bien en avoir d'autres. Donc j'ai peut-être fait construire un peu une famille, voilà, avec des enfants, des garçons. Maintenant, ils ont 10 ans.
C'est
10
très
ans.
Joli, ça, comme projet.
Ouais,
de dire, bah, pause-là, en fait, j'ai fait des enfants.
C'est pas gentil parce que j'ai dit rien tout à l'heure. Donc c'est pas vrai, j'ai pas rien fait.
Tout, enfin, au contraire.
Voilà, peut-être essentiel. Mais professionnellement, j'ai rien fait. Mais au niveau privé, peut-être que j'avais pas privilégié la vie privée. Et j'ai pensé que peut-être si je suis tombé aussi, c'est peut-être que j'avais pas cet équilibre.
Alors vous dites, je suis tombé, mais tout de même, en 2013 et 2014, juste avant que vous ne fassiez cette pause, vous étiez si mélancolique, l'aventure donc de Forever Gentleman, à laquelle vous aviez participé aux côtés de Garou, de Rock Voisine et de Polanka, elle avait été flamboyante. C'était une sorte de nouveau Rat Pack, le groupe fameux des années 50 et 60, à Vegas, qui réunissait Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Je me souviens de vous, ouais, dans Gentleman Forever, vraiment...
J'étais dans mon élément.
Ah, ouais. On ne pouvait pas être plus dans son élément. Alors, pourquoi cette aventure ne s'est-elle pas poursuivie ?
Oh, parce que vous savez, c'est très dur en fait de réunir des chanteurs comme ça, qui ont des égos. Je ne dis pas que j'en ai pas non plus, mais pour continuer, il fallait vraiment avoir cet esprit de groupe. Et effectivement, moi j'étais fou de joie quand TF1, qui est quand même une chaîne généraliste, qui n'a pas l'habitude de défendre le jazz. Quand même. C'est un peu fou, quoi, le projet. Mais le projet a plu parce que tout d'un coup, il y avait des chanteurs en smoking qui défendaient vraiment, et c'était vraiment de la musique sans concession, c'était vraiment du jazz. Hein. C'était pas un ersatz, c'était fait avec un big band et tout ça. Et puis après, ça n'a pas continué parce que je pense que, je veux pas raconter les dessous, mais il n'y avait pas eu d'entente, il n'y avait pas cette camaraderie, en fait, qu'avaient les vrais Sinatra et Di Martino. C'est des vrais amis, hein. Ils n'avaient pas d'ego, ils avaient réussi d'une manière flamboyante, et à la cinquantaine, ils ont décidé de mettre en commun leur renommée. Donc peut-être dans le groupe, tout le monde n'était pas arrivé à ce niveau-là, donc il y avait des petites luttes, tout ça, donc ça n'a pas tenu. Mais c'est très dur, les groupes, regardez, les groupes de rock, ça tient pas non plus. Mais c'est pas grave, parce que je trouvais que tout d'un coup, sur une grande chaîne nationale comme TF1, on écoutait du jazz, et ça a marché, parce que les gens, ça leur a plu beaucoup.
Alors, après cette pause de 4 ans, comment, Danny Briand, avez-vous retrouvé le goût, la flamme, l'envie d'avoir envie, comme chantait Johnny?
Je suis revenu à ma musique ontologique, je suis revenu au swing. Voilà. Et je suis allé à Memphis, parce que je suis un fan d'Elvis aussi, je suis un fan de Sinatra, mais je suis un fan d'Elvis. Et là, je sais pas, j'étais à Graceland, j'ai traîné le soir dans les bars de Nashville et tout ça. Puis j'ai eu envie d'écrire de la musique à nouveau. J'ai retrouvé l'inspiration et j'ai fait un album qui s'appelait Rock and Swing, où je mélangeais le rock and roll et le swing.
On retrouve tout de suite, c'est promis, Danny Briand.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Danny Briand rend hommage à Charles Aznavour dans son nouvel album, qui marie donc le répertoire de Charles à des tempos latinos. Et ça fonctionne formidablement bien. Et il s'offrira, Danny Briand, dès l'automne prochain, les 16 et 17 octobre 2021, le Palais des Sports. Alors, cher Danny, on évoquait à l'instant le Rat Pack avec Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin. On a parlé de Céline Dion. Tout ça, ça nous ramène à Vegas, où vous auriez été comme un poisson dans l'eau dans les années 60. Je vous imagine très bien sur la scène du César Palace, justement, à Vegas. Céline Dion y a chanté pendant pas mal d'années. Vous êtes allé la voir?
Oui, bien sûr. J'ai vu un spectacle magnifique. Je la vois à Paris, je la suis partout, je vais la voir parce qu'on prend des leçons à chaque fois, des grandes. Comment on arrive à ce niveau, alors que c'est. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'elle a une culture française. Ça, c'est génial. C'est comme Aznavour, en fait. Et donc, en fait, elle a quelque chose d'universel. Voilà. C'est que ces gens-là ont un truc universel. Ils ne sont pas que français. Ça part de la France, mais il y a quelque chose en eux d'universel. Et peut-être la France a quelque chose d'universel quand on garde, quand on cultive justement son côté français. C'est là qu'on est plus universel que quand on veut faire genre.
Alors, puisqu'on parle de show, Danny Briand, vous avez dans vos tiroirs, depuis 3 ans, paraît-il, un projet ambitieux de comédie musicale auquel vous croyez farouchement. Alors, que reste-t-il à faire pour qu'un jour, enfin, eh bien voilà, il voit le jour?
Il faut que je trouve un metteur en scène qui comprenne ce que je veux faire et voilà. Sinon, tout est écrit, les chansons sont prêtes, le concept est là.
Les chansons sont prêtes.
Ouais, bien sûr. J'ai depuis longtemps ce projet parce que je veux pas en parler parce qu'après on va me piquer l'idée. Quoique je l'ai déposé, mais
non,
voilà.
Non, mais attendez, sans tout nous dévoiler, quand même, quel serait le prétexte? Allez, juste l'ombre du fil rouge de cette comédie musicale, c'est quoi?
C'est un West Side Story, mais qui se passe à Paris. Entre les gens qui habitaient à Pigalle dans les années 50 et ceux qui habitaient à Saint-Germain-des-Prés. Alors, vous voyez, Saint-Germain-des-Prés, c'est le jazz.
Allez.
Et Pigalle, c'est tous les rythmes un peu typiques, parce que ça, il y avait, à l'époque, à Pigalle, il y avait beaucoup de maisons de rendez-vous. Hein, vous voyez ce que je veux dire?
Et
regardez dans les films de Jean Gabin, il y a toujours des orchestres typiques. Il y a toujours des Cubains, tout ça, parce que ça chauffe, ça fait chauffer les clients. Alors voilà, je voyais une espèce de lutte entre des gangsters et des intellectuels, voilà, et tout un truc très philosophique sur la culture française. Sur fond de jazz et de rythme latino, bien sûr.
Et vous seriez le héros de cette comédie musicale?
Maintenant, j'ai plus l'âge du héros, mais je pourrais être le père. C'est pas grave.
Et vous,
faut bien passer.
Vous savez à qui vous proposeriez le premier rôle?
Il faudrait quelqu'un qui ait le swing.
Quelqu'un qui ait le swing. Alors, bon, vous avez des héritiers pour le swing en France?
Moi, je ne sais pas quel âge il a, mais moi je trouve que Thomas Dutronc, il est vachement bien. J'aime beaucoup Thomas Dutronc. Voilà, je ne sais pas quel âge il a.
Vous êtes un peu jeune pour être le père de Thomas Dutronc, Danny Briand.
Je suis un peu jeune. Son frère.
Son grand frère.
Non, mais j'aime beaucoup Thomas Dutronc, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà, lui, il est aussi dans la veine du swing et en même temps, il y a quelque chose de très, très international.
Et il adore, comme vous, le jazz manouche.
Il adore le jazz manouche, bien sûr, c'est la base.
Danny Briand, on accorde rarement aux chanteurs le droit de vieillir. Aux crooners, encore plus rarement.
Non, je crois que justement...
Je vous pose la question parce que vous dites « Ah non, je n'aurai plus l'âge du premier rôle de cette comédie musicale. »
Non, mais c'est-à-dire que comme le héros, c'est un type qui a 25 ans, qui est élevé dans une famille de gangsters, après il découvre la culture française et tout, c'est un mec de 50 balais, ça ne le ferait pas. Mais je crois que les crooners... nous, on a le droit de vieillir, justement. Bah, plus on vieillit, mieux on est, parce qu'on a l'image du père ou du grand frère, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un de rassurant, c'est Aznavour, quoi. C'est un père, c'est le père, c'est l'image du père. Il faut rassurer, il faut adoucir, il faut calmer. On hurle pas, on chante à l'oreille des gens, et on doit leur dire que la vie est belle. Il n'y a pas d'âge pour ça.
Alors, j'espère que vous allez me permettre cette question. Dany Briand, vous êtes dans la force de l'âge, vous êtes au sommet de votre art, de vos capacités vocales, de votre expérience, de ce qui fait votre séduction. Est-ce que Dany Briand, ce pseudo choisi à vos débuts, parvient à contenir l'épaisseur de l'artiste et de l'homme que vous êtes devenu?
Bah, Briand, c'était, bon, c'est vrai, un joke, vous l'avez dit au début, mais je trouve que c'est lumineux.
Non, j'ai pas dit que c'était un joke, c'est vous qui le
oui,
dites.
Oui, moi c'était un joke, j'ai pris ça comme un... c'était pas sérieux. Et parce que ça faisait brillant.
Bon, mais ça vous correspond toujours?
Bah ouais, je vais pas changer de nom, parce que je pense que les gens s'y sont habitués, et dans brillant, moi je vois le côté la lumière. Donc voilà, c'est ce que j'essaie d'amener un peu, sans me vanter, j'essaie d'apporter un peu de joie, un peu de lumière, un peu de paix, d'harmonie, et donc je crois que dans ce nom, il y a ça.
Il y a ça, effectivement. On retrouve tout de suite Dany Briand.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Dany Briand, vous sortez donc un album solaire qui fait tournoyer le répertoire d'Aznavour sur des rythmes latinos sans en perdre le sens. Voilà, le mariage est inattendu et terriblement efficace. Et avec cet album, auquel d'ailleurs une suite est prévue, eh bien, vous allez partir en tournée dans plus de 40 villes à l'automne prochain, et vous vous offrirez le Palais des Sports à Paris les 16 et 17 octobre 2021. Vous avez le temps de peaufiner un show plein de pépites, hein. Même si au départ, je crois savoir qu'au printemps, vous donnerez rendez-vous à votre public plutôt dans des théâtres pour un spectacle dont la forme sera intimiste, certainement bien plus que celle du Palais des Sports. Mais les shows, sinon, à l'automne prochain, vous les imaginez comment?
Alors, ce serait un mélange en fait entre les chansons d'Aznavour et le côté crooner. Parce que pour moi, Aznavour, c'est le Sinatra français. Tout le monde ne le sait toujours pas, mais les chansons comme Formi Formidable, comme Mes Emmerdes, c'est vraiment du Sinatra, quoi. Ouais. Et donc, je vais imaginer une espèce de scène un peu à la Las Vegas, où je vais présenter les chansons d'Aznavour comme si c'était Sinatra, mais avec les textes en plus. Parce que bon, les textes d'Aznavour, c'est autre chose, c'est de la culture française, c'est autre chose. Et alors, bon, effectivement, je chante dans un an, et je pensais que j'allais pouvoir faire un peu de scène au printemps, mais je ne sais pas. Bon, je ne sais pas aujourd'hui. Je sais pas.
Grand point d'interrogation.
On
ne
sait pas ce qui va se
COVID.
Passer avec le Covid. Est-ce que c'est sympa de chanter avec des masques? Comme je fais une musique très dansante, est-ce que les gens qui dansent avec des masques... Enfin, je ne sais pas. Je suis vraiment dans une interrogation totale. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai pensé que dans un an, tout changerait.
Le Palais des Sports, c'est dans un an.
Dans un an,
donc,
ça va.
Il n'y a pas de souci. Bon, ouais. La famille de Charles Aznavour vous a adoubé et elle vous accompagne dans ce projet?
Alors, elle m'a donné son accord. Son accord bienveillant. Voilà, les trois enfants, Katia, Nicolas et Micha, m'ont dit d'accord. Mais en revanche, ils n'interviennent jamais dans ce que je fais. Hein. Ils me donnent leur avis. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas que je transgresse simplement certaines choses, l'ADN de leur père, que je respecte les chansons, que je respecte l'œuvre. Puisque là, ce n'est pas mes chansons, donc je fais œuvre de patrimoine, en fait. Je suis juste un relais, quelque
bien
part,
sûr.
D'essayer de faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas bien écouté les textes de Charles sur des rythmes dansants. Mais j'avais peur que ces rythmes dansants, en fait, enlèvent un peu au côté profond du texte. Mais quand j'ai fait venir toute la famille à l'écoute de l'album, en fait, ils ont adoré. Et ils ont dit, mon père aurait adoré parce qu'il aimait bien qu'on torte ses chansons. Et il n'y a pas beaucoup de covers d'Aznavour, hein. Il y a très peu.
C'est
il n'y a que lui qui chante ses chansons pratiquement.
En fait, les autres artistes n'osent pas.
Ils n'osent pas.
S'approprier ce répertoire.
Non, je crois que c'est difficile à chanter.
Vous vous êtes rendu compte que c'était difficile.
Surtout Emmenez-moi.
On respire quand?
Oh là, exactement.
on ne respire pas.
Voyez le problème.
En fait, hein, on est en apnée pendant 3 minutes 30.
C'est ça. Il y a un sens du rythme. On ne s'en rend pas compte, hein, parce qu'on n'imagine pas que Charles Aznavour est swing. Alors qu'il a cette culture-là, et il la met même dans des balades. Et il y a une façon de chanter, de mise en place qui était très très dure.
Juliette Gréco, avec ferveur, a tenu la scène jusqu'à l'âge de 92 ans. L'année de ses 94 ans, Charles Aznavour chantait encore, n'est-ce pas? Il a donné un grand concert au Japon, et puis il avait donné un concert au Zénith de Toulouse. Quelques mois avant de disparaître. Quel sentiment vous éprouvez, Dany Briand, face aux artistes qui, tel Molière, semblent vouloir mourir sur scène?
Moi, je pense déjà, ils doivent s'emmerder chez eux. Voilà, le quotidien ne leur donne pas la jubilation de la scène, du public. Et puis Aznavour, c'est un artiste au bout des ongles. Donc, pour lui, sa vie, je pense que... Bon, il avait une vie privée, et qu'il avait brillamment réussi avec des enfants, tout ça. Mais je crois que son rêve, depuis qu'il a 9 ans, c'était, il a commencé sur les planches à 9 ans, et il voulait finir comme ça, comme il a commencé, parce que c'était un artiste, c'est quelqu'un qui... C'était son espace, c'était son monde. Il voulait finir où il a commencé.
Vous, Danny Briand, vous rêvez pour plus tard, pour beaucoup plus tard, d'une vie qui pourrait s'écrire autrement, loin ou à l'ombre de la musique ? Être producteur ou,
Moi,
ou carrément larguer les amarres
je pense qu'on n'est plus dans la même époque. À l'époque, il y avait très peu de chanteurs. C'était très dur d'y arriver. Donc, le public avait ses chanteurs. Peut-être dans les années 70, il y avait peut-être, une vingtaine ou une trentaine de chanteurs connus. Maintenant, il y en a une pléthore, donc on a l'impression qu'on n'a plus besoin de nous comme avant, on n'est plus des chanteurs de référence. Donc le jour où il n'y a plus de public, je ne continue pas, donc je ne vais pas m'entêter.
Donc, je vous préviens, hein, donc vous n'êtes pas prêt de partir.
Je ne sais pas, si je fais des trucs qui ne leur plaisent pas, vous savez très bien que c'est lui le patron. Hein. Bon, alors tant qu'il est là, si vous voulez, tant qu'il m'emploie, je viens, mais si un jour il n'est plus là, non, ça ne me dérangerait pas de faire autre chose. Non, pas du tout.
Bon, en tout cas, votre répertoire, Danny Briand, il est tel qu'il a forcé un jour Alain Delon a vous confié « Quand je suis triste, j'écoute tes chansons pour me consoler. »
Oui, il m'a dit ça, il m'a dit surtout qu'il est venu à un concert un jour. Moi, Alain Delon, ça fait partie de mes idoles aussi. Hein. J'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns quand même qui sont toujours de ce monde, heureusement. Et Alain Delon est venu à un de mes concerts un jour et il m'a dit « Quand j'aurai le cafard, je viendrai te voir. » Ça, je trouve ça comme un très beau compliment.
On va rester sur cette confidence-là. Les 16 et 17 octobre 2021, le Palais des Sports sera à vous, Danny Briand, le Palais des Sports à Paris. Et puis je rappelle bien sûr la sortie de l'album Hommage à Aznavour. Danny Briand chante Aznavour qui est déjà dans les bacs. Merci infiniment.
Merci Isabelle. J'ai adoré cet entretien.
À très vite.
Au revoir.